RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules, en direct sur RMC, RMC Story, avec nos trois GG, Emmanuel Debilly, le chef d'entreprise, Laura Barton-Martinez, qui est sophrologue, et puis nous sommes avec Bruno Poncet, le cheminot de Vierzon. Que va-t-il se passer dans les deux heures à venir, dans les GG, dans les grandes gueules? Nous aurons un face au GG tout à l'heure avec Marion Maréchal. Elle sera avec nous, l'eurodéputée, la députée européenne Identité Liberté. On reparlera aussi de l'affaire Liana avec des magistrats qui se rebiffent contre les sanctions. Ils appellent à une journée justice morte. Jordan Bardella, toujours intouchable dans les sondages. Est-ce que ça y est, ça va être compliqué de rattraper Jordan Bardella dans la perspective de la présidentielle? Et puis maintenant, je propose de revenir sur ces anciens premiers ministres ou anciennes épouses de chef de l'État qui sont toujours sous protection, sous escorte, alors que normalement, ils ne devraient plus l'être. Ce qui est intéressant, c'est de revenir sur ce qui nous est raconté aujourd'hui. C'est Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, ça ne date pas d'hier, a eu un accident. Plutôt, son chauffeur a eu un accident de la route, ce qui permet de savoir que Jean-Pierre Raffarin a toujours un véhicule de fonction et un chauffeur.
Oui, d'après les premiers éléments rapportés, la Renault de Jean-Pierre Raffarin, équipée d'un gyrophare, aurait franchi un feu rouge alors qu'elle circulait sirène activée boulevard Malesherbes dans le 8e arrondissement de Paris. Un conducteur de scooter s'est engagé à l'intersection et le choc, malheureusement, n'a pas pu être évité. Jean-Pierre Raffarin n'était pas au volant au moment des faits, donc il a un chauffeur. Et on se pose la question, pour quelle raison Jean-Pierre Raffarin a-t-il gardé une voiture avec chauffeur, puisque le Premier ministre actuel, M. Lecornu, nous avait expliqué que c'était fini. Les avantages à vie des anciens membres du gouvernement, ils devaient être supprimés dès le 1er janvier 2026, donc de cette année. On retrouve donc Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, avec un chauffeur, avec une voiture de fonction, avec un gyrophare, en plus impliqué dans un accident. Pourquoi bénéficie-t-il d'une voiture avec chauffeur?
Avec Jérôme.
C'est la grande question.
Oui. Alors attendez, la présentation de notre ami Olivier est un peu fallacieuse.
Ah, alors
Tu parles de suppression pour les membres du gouvernement. Là, on parle d'un ancien Premier ministre.
Oui.
Qui, comme mais un ancien chef de l'État.
Mais ça concernait aussi les anciens Premiers ministres.
Oui.
Mais
oui.
Mais tu sais que Madame Edith Cresson, qui est toujours en vie, et nous la saluons, avait ses avantages depuis les années 80. Oui, elle a été première ministre 9 mois.
C'est pas là qu'on va redresser l'État en termes financiers. Les membres du gouvernement, les secrétaires d'État, ministres ponctuels.
Ma question n'est pas ça, Emmanuel.
Un ancien Premier ministre ou un ancien chef de l'État, il ne serait pas normal qu'ils reviennent à la vie civile sans la poursuite d'une protection. Ce sont des gens qui ont dirigé l'État. Non, mais on peut tout dire par démagogie, mais faut quand même être sérieux.
Emmanuel,
on parle simplement d'un chauffeur et d'un officier de sécurité. Alain parlait d'escorte.
Et d'un gyrophare, ça se justifie pour Jean-Pierre Raffarin, le gyrophare?
Le problème est,
il y a des urgences à gérer dans Paris.
Il est obligé d'aller manger à la truffe blanche et qu'il est en retard.
Jean-Pierre Raffarin, il m'avait fait confiance pour le redressement du Futuroscope quand il était premier ministre.
On le connaît très bien.
En 2002.
C'est pas le problème.
Donc c'est quelqu'un qui a quand même la tête sur les épaules. Là, l'erreur que tu pointes et qui est réelle, et je pense qu'il le regrette, c'est que n'ayant pas une urgence liée à ses activités publiques, il n'a pas à faire usage d'un gyrophare et donc a créé un accident par l'erreur de son chef. Quant à la protection d'un ancien Premier ministre, d'une ancienne épouse du chef de l'État, avec simplement un chauffeur, un véhicule français et un officier de sécurité, c'est parfaitement normal. On va quand même pas abaisser la France rien.
Emmanuel, dans ce cas-là, que Monsieur Lecornu n'annonce pas le contraire. Pourquoi Sébastien Lecornu annonce la fin des avantages
pour les membres gouvernement.
Non, pour les premiers ministres aussi, les anciens premiers ministres. Pourquoi ces avantages perdurent? C'est simplement ça. Je pose la question.
Alors qui a une durée de péremption pour un premier ministre?
C'était à partir du 1er janvier.
Après 20 ans, 25 ans, etc. Mais c'est aussi à étudier classiquement.
Enfin, il a été premier ministre en 2000.
Comme toutes les protections de personnalité, c'est à étudier par la police et le ministère de l'Intérieur. Il y a des.
Non, mais tu confonds.
Il y a des gens qui ont pris des décisions qui les mettent encore en menace.
Tu cries beaucoup. C'est pas pour ça que t'as raison. Déjà, on parle pas de protection policière, on parle de chauffeur, de voiture et de gyrophare et des avantages à vie. Pourquoi quelqu'un qui a été Premier ministre, alors il a été lui Premier ministre 3 ans, entre 2002 et 2005, doit garder ses avantages à vie? Qu'est-ce que ça le justifie?
Olivier, moi je l'entends ce que tu dis depuis tout à l'heure, mais moi il y a un vrai problème aussi. C'est qu'une fois que l'accident est arrivé, Raffarin s'est barré comme un voleur. Excuse-moi, l'homme d'État providentiel, l'homme d'État, il se barre comme un voleur, il va même pas s'enquérir d'un mec qui l'a administré quand même. Il s'est quand même pas enquéri si le mec était mort ou quoi que ce soit. Moi, je trouve que Raffarin, dans sa couardise maximale, on est pas mal quand même. Premièrement. Deuxièmement, moi, je vois pas en quoi Raffarin aujourd'hui, je sais même pas ses attributions, il est quoi? Il présente quelque chose, non? Donc, en quoi il a besoin d'avoir des gyros et tout? Moi, je trouve qu'il y a déjà trop de gyros dans Paris. Tu sais, jamais je tourne la tête, je vois des ambulances privées qui ont des gyros qui passent au feu rouge. Moi, je comprends pas trop l'histoire.
Ça pourrait même être interdit, le gyro, pour un ancien premier ministre.
L'autre fois, moi, j'ai vu des policiers mettre le gyro et voir la camionnette plus tard, Master Poulet, 10 minutes plus tard. Enfin, 5 minutes plus tard, donc, tu vois.
Dis pas de mal de Master Poulet.
Oui, moi non plus, j'aime beaucoup. Là, il y a un vrai sujet. Et Pierre, excusez-moi, mais moi, je voudrais bien savoir pourquoi Anémone Giscard d'Estaing, je sais pas quel âge elle a, mais son mari.
93 ans.
Voilà.
Ma grand-mère a 93 ans.
Non, mais c'est pas une question d'âge, mais je sais pas en quoi, pourquoi elle a besoin d'une protection policière. Qui c'est qui?
Elle l'a depuis qu'elle a quitté l'Elysée, t'imagines, en 1981.
Ouais, moi, je m'en rappelle bien.
Non, t'imagines, l'ardoise.
Voilà. Non, mais en quoi on lui donne quelqu'un pour la protéger? Elle est protégée de quoi et de qui? Raffarin, qui se rappelle de Raffarin? Tout le monde se rappelle de lui pour avoir essayé d'imiter Johnny d'une façon ridicule.
Oui, mais là, en fait, c'est autre chose.
Non, mais à un moment donné, c'est le standing de l'État.
Non, mais Emmanuel, le gyrophare, faut arrêter.
Attention, pas en même temps, doucement.
Mais le standing de l'État, t'as besoin qu'Anémone Giscard d'Estaing ait besoin de quelqu'un. Personne va lui faire du mal.
Non, et puis il faut arrêter avec ce truc du standing de l'État. On a des ministres qui, une fois qu'ils ont fini de bosser, ont plus d'avantages que certains ministres dans d'autres pays quand ils sont encore en action et en fonction. Donc il faut
pas
arrêter.
Pays scandinave, tu
exactement, c'est exactement. Vrai, et je suis désolée. Moi, à un moment donné, le fameux argument que tu as avancé, Emmanuel, c'est pas avec ça qu'on traitera le pays. Et ben c'est pas en disant ça à chaque chose qu'effectivement, je suis désolée.
Oui, mais ça c'est un élément de prestige. Non. C'est comme quand on reçoit Trump à Versailles. Mais il faut un peu de prestige dans la vie.
Ça, je suis complètement d'accord.
C'est-à-dire
que moi, recevoir le président des États-Unis à Versailles, je trouve ça formidable. Je trouve que même faire des grands banquets qui nous coûtent 300 000 euros, c'est le président de la France. Ça, je suis d'accord avec toi, j'ai aucun sujet là-dessus. C'est comme leur
monde. Il aime que le McDo.
Non, mais l'autre aime que le McDo. Là, je suis pas sur ça. Je suis que déjà, pardon, mais quand ils sont en fonction, mais qui en France est payé à des enveloppes de 7000 boules pour s'habiller et s'acheter du maquillage? Personne, sauf en France. Qui a besoin d'un chauffeur quand tu peux te payer un Uber? Parce que, par contre, t'as quand même ton indemnité de ministériel à vie dans ta fouille.
Non, mais attends.
Arrêter deux secondes, si tu veux.
Je comprends la défense, etc. Il faut qu'ils aient des équipements.
Non, mais c'est pas ça que je te dis, Emmanuel. Là, c'est toi qui es démago et dépassionne un petit peu.
Le problème, c'est l'avantage à vie, c'est pas ça
qu'on te dit. Je suis désolée. Effectivement, tu vois, par exemple,
t'es obligé de mettre un policier derrière chaque homme politique. Madame... On va voir qu'on manque de policiers dans la rue pour arrêter les narcotrafiquants. T'en fais des sketchs toute la journée. T'as un keuf. Moi, je veux dire, j'ai croisé Hollande il y a pas longtemps. Il a encore un flic avec lui, en fait. T'as demandé, ça lui sert à quoi, Hollande? Qui va le tabasser, en fait?
Non, mais tu vois, par exemple, que Madame Bruni Sarkozy est une protection, je trouve ça normal.
T'es sérieuse?
Non,
mais c'est normal d'assurer la sécurité. Bruno, tu vas trop loin.
Non, mais vous me faites chier.
Les deux sont des magots au possible. C'est-à-dire que là, il faut rien du tout, et là, il faut garder
tout. Un ancien président peut être une cible. Et si on attaque François Hollande, tu sais très bien que c'est pas François Hollande lui-même qui sera attaqué, c'est la France, en quelque sorte. Ce qu'il représente,
il a été très précis.
Oui, mais Jean-Pierre Raffarin, pardon, je suis désolé.
Il y a une date de péremption.
Jean-Pierre Raffarin.
Il peut y avoir un délai de fin, oui.
Il peut avoir un délai de fin, pardon, et au bout d'un moment, on l'a oublié. Il a été Premier ministre il y a 20 ans.
Tout le monde
le gyrophare, ça, c'est pas bien, parce que, désolé, dans Paris, c'est déjà quand même le chaos, la circulation. Si, en plus, tu rajoutes des gens qui, pour leur confort personnel, mettent le gyrophare parce qu'ils sont en retard à un rendez-vous ou à une matinale radio, on a souvent vu des ministres mettre, on va le balancer, mettre le gyrophare parce qu'ils sont en retard le matin à BFM TV. Non, ça, c'est des choses qui sont plus possibles, ça.
Tout à fait. Non, mais tout à fait.
Les Scandinaves le font pas.
Doucement sur les Scandinaves.
Soyons un peu suédois et norvégiens.
Suédois qui a été assassiné.
Monsieur Olof Palme. Oui. Mais je ne comprends pas pourquoi tu dis c'est une question de.
On a un préfet qui a été tué en France aussi.
Président de la République, Premier ministre, qui est donc le numéro 2 de l'État, en dehors des présidents des assemblées. Ce sont des personnalités, on peut pas les ramener à moins que rien.
Mais avant un délai effectivement
très long. Avant un délai très long. Et jamais pour le chef de l'État. Jamais pour un ancien chef de l'État. Alors malheureusement, on est passé au quinquennat, ce qui fait qu'il y a une prolifération en cours des anciens chefs de l'État. Mais c'est comme ça, on peut pas les voir pour les ramener au vulgus pecum.
Mais pas t'imagines sérieux. Ce que là, ça va nous coûter avec tous les premiers ministres qu'on a eu en 10 ans?
Et ça coûte rien, l'État.
Effectivement.
On se surendette, là, pendant qu'on parle. Au premier trimestre, de 5000 euros par seconde.
Bah, des records.
Oui, par seconde, mesdames, messieurs.
On continue de payer ces gens-là qui nous ont mis dans cette situation. Mais tout va très bien.
D'accord, mais il faut un minimum de dignité. Par contre, c'est l'État.
On peut pas porter
plainte
contre Raffarin pour délit de fuite, parce que c'est comme lui le donneur d'ordre d'un conducteur, en fait. Donc, s'il a buté le mec, c'est lui, et après, il se barre comme un voleur.
Non, moi, le type n'est pas mort, Bruno, je crois.
Bah non, il est blessé. L'avantage, c'est que c'est son chauffeur qui va être sanctionné, c'est pas lui.
Après, il sera obligé de conduire.
Pour des suites à pied.
Mais moi, je peux lui envoyer un lien. Attends, je peux le parrainer pour Uber et Bolt, il n'y a pas de problème.
Tu as raison, c'est une bonne question. Ouais. Parce que c'est l'histoire du donneur d'ordre. C'est-à-dire, écoutez, monsieur, moi, j'ai exécuté les ordres.
Attendez, parce que souvenez-vous qu'Edouard Philippe s'était fait attraper excès de vitesse sur le tour de Normandie.
Il roulait super vite.
Et je me demande si c'est pas lui qui a été sanctionné, parce que le chauffeur peut dire, mais c'est mon client, en gros, derrière, qui m'a demandé de griller le feu ou d'aller vite.
C'est son employeur.
Donc,
c'est intéressant, tu as raison, juridiquement, de revoir un peu qui est responsable.
Je vois pas un chauffeur, surtout un chauffeur de ces gens-là, se retourner contre l'autre en disant, c'est de sa faute à lui.
Mais c'est lui qui va perdre les points.
Il va perdre son boulot, surtout.
Non, il va perdre son boulot,
On a Thierry qui va intervenir, qui est gestionnaire d'un site e-commerce en Charente, du côté de la Rochefoucauld. Bonjour Thierry.
Bonjour les grandes gueules, ça va?
Alors, oui, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez alors?
Bon, moi j'en pense que ces gens-là, donc les ministres et les députés, etc., c'est un peu comme dans le privé. Quand t'as fini ton taf, t'as plus les avantages liés à ton taf. Je veux dire, demain, vous êtes plus à RMC, vous aurez plus accès à la cantine, par exemple.
Non, ça serait dommage, parce que Alain Marchal, c'est un fidèle.
Tout ça pour dire que, par contre, je mettrais un petit bémol. Pour les anciens ministres, je suis d'accord pour celui de la Défense et de l'Intérieur, qui a une certaine protection pendant une durée...
Bien sûr.
Parce que c'est normal. Très important. Mais
Premier ministre, défense,
d'écologie ou tout ça, je veux pas les dégrader dans le grade, mais bon...
Bien sûr, s'il y a des ministres qu'on connaît même pas quand ils sont ministres, voilà. Bien sûr. Vous imaginez bien, quand ils sont plus ministres, on les connaît encore moins.
Ce que je veux dire par là, c'est que ces avantages, il faut arrêter. C'est pas l'aspect financier, c'est sur le principe. Je veux dire, Raffarin, parce qu'on en parle, parce que son chauffeur... Mais je savais même pas qu'il avait encore un chauffeur, faut arrêter. Il a assez d'argent pour se payer une bagnole et la conduire lui-même ou prendre un taxi.
À mon avis, c'est plus conduire, parce que ça fait bien longtemps qu'il n'a pas dû conduire une voiture.
Mais je veux dire, il faut arrêter. Alors vous allez me dire, oui, mais ça a toujours été comme ça, peut-être, mais à un moment, il faut changer.
Surtout que monsieur Lecornu avait annoncé publiquement, il était fier de ça en disant fini les avantages. Donc soit c'était de la démagogie.
Ouais, mais tous les politiques ils vous font des promesses, ils vous disent on va faire comme si et il se passe jamais rien. Donc maintenant il faut être clair et net. Comme je disais, hormis le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense et l'ancien président, peut-être le Premier ministre éventuellement, certains avantages pendant une durée donnée, pas à vie déjà, et les autres basta. Vous avez fait votre taf, vous avez vos retraites, vous payez une bagnole et vous la conduisez ou vous faites conduire. Mais
il
y a encore pire des gyrophares. Et
Thierry, rappelez-vous en fait Delevoye là à qui on avait retiré ses facilités, son chauffeur. Sa femme dit mais écoutez mon mari, ça fait 40 ans qu'il conduit pas. On peut pas le mettre dans une voiture. Non mais c'est
honteux. C'était pas Delevoye, c'était Daniel Vaillant. L'ancien ministre de l'Intérieur.
Eh ben il se paye des cours. Il va être dans une auto-école, il prend des cours et puis.
Non, mais il achète une voiture électrique, ouais, il ne nous emmerde pas.
Il achète une amie. Et puis, petite parenthèse, tout à l'heure, vous avez tiré à boulet rouge sur les ambulances privées, etc. Des fois, elles interviennent à la demande du SAMU sur des situations urgentes.
Ça m'a toujours choqué. Alors, pour vous dire la vérité, moi, ça me choque depuis un paquet d'années. Ma grand-mère, un jour, s'est cassée la figure chez nous, et en fait, elle s'est cassée le fémur, elle a été prise à l'hôpital et elle a été prise par une ambulance privée qui et moi j'ai regardé le mec, j'ai dit mais moi je sais pas, j'ai appelé les pompiers et le mec me dit oui mais les pompiers nous appellent nous maintenant parce que voilà machin, enfin en fait ils avaient réduit les moyens et voilà.
Ça serait
et en fait l'ambulancier privé qui a pris ça, parce que moi j'ai travaillé à un moment donné avec des amis qui tenaient des VSL et en fait il a mal pris ma grand-mère, il a gravé ce qu'elle avait, donc à un moment donné moi je me dis chacun son métier, je préfère que les pompiers viennent chez moi quand je les appelle.
Ouais, c'est pas leur métier. Enfin bref, peu importe. On revient sur le sujet pour les anciens ministres. Non, moi, je suis totalement contre ces avantages.
D'autant plus qu'il y avait eu des promesses de faire le ménage.
Moi, je suis d'accord pour la protection, pour l'entretien.
Si on va prendre deux anciennes premières dames, dont l'une vient de disparaître, Madame Chirac, elle avait toujours un officier de sécurité, alors qu'elle était à demeure dans un état quasiment végétatif, et Anémone Giscard d'Estaing, qui a 93 ans, peut s'interroger.
Je vous oppose quelque chose là-dessus. Oui. Vous pouvez me donner la situation de la première dame en France? Quel statut elle a?
Elle n'a pas de statut. Il n'y a pas de statut.
Elle n'a pas de statut, mais lorsque le président est en exercice, elle peut être potentiellement cible. Donc c'est logique de la protéger.
Alors, une autre réflexion pour M. Hollande, on lui met deux chauffeurs, un pour chacune des dames qu'il a eu avec
lui. Trois, parce que c'est Ségolène avant, enfin, à un moment donné, Hollande, lui.
Pour témoigner à propos de Ségolène Royal, que Olivier et moi avons souvent côtoyé dans le cadre de nos émissions.
Elle a des avantages.
Non, elle a plus d'avantages, si je me souviens bien, Ségolène Royal.
Le chauffeur, avec l'officier de sécurité et la voiture, c'est pour les anciens premiers ministres. Un ministre n'a pas un chauffeur à vie, etc. Si, sauf les ministres de l'Intérieur. Comme ils ont été ministres de l'Intérieur, on estime qu'ils peuvent être menacés. Donc, il y a les ministres de l'Intérieur, comme Daniel Vaillant, qui l'ont été il y a bien longtemps, les plus jeunes ne l'ont jamais connu, et qui bénéficiaient encore d'avantages. Mais je pense qu'il faut une durée de vie, en fait, de ces avantages. Et puis, effectivement, il faut justifier. Dans le privé, tu justifies tes dépenses. Quand tu vas bouffer dans le cadre de ton travail, tu dois justifier ton déjeuner. Tu dois justifier aussi la dépense de carburant, etc. Et je trouve qu'on va pas assez loin dans ces règles-là concernant les gens qui nous représentent.
C'est d'ailleurs pour ça que la dissolution était un scandale, parce que avec cette dissolution, le président de la République savait qu'il allait nommer de nouveaux premiers ministres et tout un système.
Je suis désolé, mais quand tu dis qu'il faut les maintenir au ministère de l'Intérieur, moi je suis désolé, je connais un ministre de l'Intérieur qui aujourd'hui a un bracelet électronique.
Brice Hortefeux.
Ouais, est-ce qu'on lui laisse ses avantages de la République? Alors que c'est un mec
Brice
qui est condamné.
C'est intéressant parce qu'il est un bracelet électronique et il a en même temps un officier de sécurité.
Merci. Dans une affaire de terrorisme, on est d'accord.
Merci à Thierry d'avoir été avec nous. Bonne journée, Thierry. À bientôt dans les GG. Thierry, merci. Alors, est-ce que garder les privilèges, c'est normal? C'est scandaleux?
Certainement pas, vous allez voir.
On va voir ce que vous en dites, bien sûr. Quelle est votre réaction? C'est une honte à quasiment. C'est une honte à quasiment
80%. Assurer la sécurité, oui, le confort.
96%. Le jeu, la prime de match, elle est là. Attention, la prime de match de 58 000 euros. Retenez bien le montant. Le tirage au sort aura lieu aujourd'hui avant 15h. 58 000 euros à gagner. Vous envoyez but dès maintenant par SMS au 732-16. Inscrivez-vous. Alors, ça a lieu avant 15h. Dans quel show? On peut imaginer que on puisse avoir un coup de fil dans les GG. On peut avoir un coup de fil aussi pendant Estelle Midi. Donc la somme à donner, c'est 58 000 euros. À vous de jouer en envoyant but par SMS au 732-16. Et restez bien à côté de votre téléphone et retenez la somme, 58 000 euros. Il est 10h20.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Vous êtes avec les Grandes Gueules, c'est sur RMC, RMC Story, c'est tous les jours en direct, bien sûr. Aujourd'hui, Laura Barton-Martinez est là, elle est sophrologue, Bruno Poncet-Cheminot et Manuel Devilliers, l'entrepreneur, nous accompagnent. Les magistrats vont organiser une journée justice morte. Est-ce qu'ils ont raison? Ils dénoncent le fait d'être des boucs émissaires depuis l'affaire Liana. Alors, c'est pas une décision arbitraire de la part du ministre de la Justice. Il avait demandé un rapport. Tout comme Laurent Nunes, le garde des Sceaux, lui aussi, avait demandé une enquête administrative pour regarder les dysfonctionnements. C'est pas lié au meurtre de Liana, c'est ce qui était avant, en particulier l'histoire de la plainte de la mère de la petite Rosa qui avait dit avoir été violée par Jérôme Barella.
Oui, et on voit que les plus hauts magistrats de ce pays montent au créneau pour dénoncer cette stratégie du bouc émissaire. Rémi Hetz, qui est le procureur général près de la Cour de cassation, c'est donc le plus haut magistrat du pays, estime que l'affaire Liana, c'est plus une crise systémique Et ça dépasse donc la question des moyens de la seule institution judiciaire. Ils estiment, ces magistrats, qu'il faut arrêter de désigner tel ou tel procureur ou tel gendarme. Non, il y a un problème plus général. Alors, on savait que la magistrature, c'était c'est le corporatisme par excellence. Les magistrats ne supportent pas être mis en cause. D'ailleurs, ils le sont rarement. Dans la plupart des professions, lorsqu'on fait une faute, eh bien, on est sanctionné. Un médecin, s'il rate une opération chirurgicale, il peut se trouver devant les tribunaux. Un artisan, si, sur un chantier, s'il fait une erreur, il devra bien sûr en rendre des comptes. Le policier, il y a la police des polices, et il peut également être poursuivi. Et on a l'impression que les magistrats, il ne faut jamais les remettre en cause. Là, visiblement, il y a eu des fautes professionnelles individuelles. Alors, on verra quelles sont les sanctions qui vont être prises. Elles ont été promises par le garde des Sceaux. On sait que le garde des Sceaux peut plus dire grand chose sur les magistrats, puisqu'on a coupé le lien entre le ministre de la Justice et les procureurs. Donc ils sont très indépendants, mais l'indépendance ne veut pas dire au-dessus de tout le monde.
Qu'est-ce que vous en dites, Bruno ?
Moi, je trouve que...
Ils ont raison, les magistrats, de faire...
Ouais, je pourrais quand même être d'accord avec lui, parce que ça fait depuis quelques semaines qu'ils sont livrés à la vindicte populaire, et quand j'entends Darmanin dire que c'est que de leur faute à eux, quasiment... ou de la gendarmerie, parce qu'il faut jamais, moi je ne pourrais jamais oublier ce gendarme qui a voulu porter plainte contre la mère de la petite, qui est en train de lui expliquer que c'était un violeur barré là, tu vois, et que après en fait là c'est pas là, on peut dire ce qu'on veut sur le système, là c'est pas le système, c'est la personne, hein. Donc à un moment donné, je pense que ce gendarme là doit pas bien dormir en ce moment, mais je trouve que effectivement les mettre en bouc émissaire, c'est trop facile. En fait, c'est pas les magistrats, par exemple, qui ont fait la réforme de la justice dans les années 2007-2008 avec Dati et Sarkozy. C'est pas eux qui ont fait ça. C'est pas eux qui ont réduit le nombre de tribunaux en France. C'est pas eux qui ont réduit le nombre de policiers en France aussi. Donc, à un moment donné, ouais, eh ben, si aujourd'hui, 20 ans plus tard, on se retrouve face à une justice et une police qui se retrouvent démunies de moyens, et pas uniquement humains ou matériels, mais aussi de moyens d'agir, parce qu'à un moment donné, ils ont même pas les moyens, des fois, de pouvoir faire leur taf. Et surtout, on les met à des endroits où ils ont peut-être pas besoin de les mettre, alors qu'on devrait les mettre à d'autres endroits et on les met pas. Moi, je suis désolé. Quand j'étais gamin, moi, je le disais encore hier avec mes collègues de la SUG, j'étais avec les collègues de la Surveillance Générale, on discutait parce que ils voyaient des choses dans les gares qu'ils voyaient pas avant, et je dis, mais quand moi j'étais gamin, il y avait un flic à chaque feu rouge. Ben, je peux te garantir qu'il y avait quand même la peur du gendarme, il y avait plein de choses qui ne se faisaient pas, et aujourd'hui on n'était pas en train
question de moyens lorsque les magistrats du parquet, notamment celui de Hoche ou ceux de Hoche, se rendent pas compte quand même qu'il y a une affaire qui peut être grave.
L'enquête dit que ce n'est pas une question de moyens l'enquête.
Ils n'ont pas compris qu'ils étaient face à une affaire grave de violence sexuelle sur mineurs. Ça, c'est pas une question de moyens, c'est une question de compétence.
Elle a diligenté l'enquête, mais l'enquête n'a pas été faite. C'est pas ça aussi l'histoire, c'est qu'elle a diligenté l'enquête sur Barès Montréal, que l'enquête n'a pas été faite.
Non.
D'une manière générale, je suis très largement d'accord avec ce que vient de dire Bruno. C'est trop facile, et aussi toujours de trouver des boucs émissaires. C'est un sujet éminemment délicat. Personnellement, j'aime pas les juges en France. Je les aime pas parce que on a beau dire ce qu'on veut, ils ont beau s'en défendre, ils sont 80% à gauche, 20% à droite, et ils jugent souvent, non pas en fonction des textes, mais en fonction de ce qu'ils pensent eux dans leur vie sociale. Les avocats le disent en off, et il faudrait revoir le recrutement des juges. On parle par exemple d'anciens gendarmes, mais ça pourrait être d'autres profils, pour revenir à une justice qui juge en équité, qui juge la justice, c'est qui doit être condamné, qui doit avoir raison quand il y a des partis qui s'opposent, qui jugent en équité et non pas en malaxant des textes et un mauvais esprit quelque part.
Oui, mais là, en l'occurrence, ils ont l'impression en fait de dire que les magistrats, en fait, ce qui renvoie comme message, c'est dire que ça a été le fait du prince, le fait du garde des Sceaux. Le garde des Sceaux, il s'est juste appuyé sur le rapport qui lui a été rendu, qui a démontré une faute individuelle et qui a dit que c'était pas une question de moyens dans cette histoire, c'est une question de jugement. C'est le rapport qu'on lui a rendu. Tu vois, il a pas dit virez-moi machin parce que je l'aime pas ou quoi que ce soit. Et Nunes, pourquoi il a suspendu les deux gendarmes? Mais c'est parce que c'est issu aussi d'un rapport sur un dysfonctionnement, Laura Varton-Martinez.
Oui, non, mais pardonnez-moi, mais moi, ce que j'entends, moi, je suis pas du tout dans l'invective des juges et des magistrats sur toutes les autres affaires. En revanche, on constate que sur tout ce qui est violence sexuelle ou violence tout court sur mineurs et violence sexuelle ou tout court sur femmes, on a un laxisme de la justice qui est effarant. Et pardon, là, on est sur les magistrats. Si tu veux, je peux en venir ensuite aux gendarmes et aux forces de l'ordre. Là, en l'occurrence, on parle des magistrats. Je suis désolée, moi, je suis au contact de familles, de militants, qui envoient des preuves. Et tout finit en cassation parce que la justice ne fait pas son travail. Je suis désolée. Les magistrats, certains, couvrent. Il y a une omerta totale. Est-ce que vous vous rendez compte que cette semaine, vous avez une juge qui a balancé à la poubelle des dossiers sur des violences sexuelles sur mineurs. Elle s'est faite gauler. Et la seule... Franchement, le syndicat de la magistrature l'a mise à pied. Donc c'est pour dire, pour que le syndicat de la magistrature mette au pied un magistrat, à pied un magistrat, c'est que vraiment c'était costaud. Et ben, vous avez des magistrats qui sont allés manifester pour la soutenir. On en est là en France. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui est en train de se passer, toutes les langues qui sont en train de se délier, toutes les failles justice, de la justice et judiciaire qui sont sur nos enfants, qui sont sur les femmes... Vous avez des magistrats qui vont manifester pour soutenir une collègue à eux parce qu'elle a jeté à la poubelle, et c'est pas caché dans un tiroir. Jeté à la poubelle, c'est la femme de ménage qui a retrouvé les dossiers. Et on va l'aider, on va la soutenir. C'est ça qui se passe. Mais qu'ils aient honte tous un par un, et que ceux qui sont contre tout ça se mettent vent debout. Je suis désolée, il faut que les choses reviennent dans le bon sens. Et à un moment donné, les magistrats, il va falloir qu'ils se mettent un chouïa en tête que leur boulot, c'est de rendre la justice au nom du peuple. Et si le peuple n'est pas d'accord avec ce qui est en train d'être fait dans les tribunaux, eh ben ils doivent se remettre en question et faire leur job. Je suis désolée, c'est pas les magistrats qui décident, comme l'a dit Emmanuel, qui décident d'évaluer les lois. Vous avez à l'heure actuelle une loi contre les violences ordinaires qui est passée dans ce pays. Les juges de France n'appliquent pas cette loi. Personne n'est condamné.
Les lois existent. Oui. Pardon, mais on ne va pas refaire
les lois. Les lois, c'est ce que je viens de dire.
Tu disais
la loi ordinaire existe, elle n'est pas appliquée par les magistrats en France.
Tu disais le manque de moyens. Certes, puisqu'on manque de procureurs, on le voit par rapport à nos voisins européens. Mais il y a aussi, après, ce que tu fais toi dans ton travail. Là, regarde, en ce qui concerne Rosa et sa mère, on fait un courrier postal. On met pas le dossier urgent, on coche pas la carte urgent. Enfin, je veux dire, à un moment, toi aussi, t'es sanctionné dans ton job si tu fais pas ce qu'il faut. Donc là, ceux qui ont été sanctionnés, c'est pas parce qu'ils sont juges, c'est parce qu'ils ont failli. Donc c'est juste ça qu'à un moment, on relève. Oui, mais... et derrière, c'est plutôt un réflexe de dire, c'est pas à vous de le faire. Mais le garde des Sceaux, il est quoi? Il est ministre de la Justice. C'est lui, même s'il y a la loi Taubira qui dit que le parquet est indépendant.
Bon,
aujourd'hui, c'est quand même le garde des Sceaux qui est garant et qui dit aux Français, la justice, comme le disait Laura, est rendue au nom du peuple français. Dans la chaîne judiciaire, il y a eu une faille. Désolé, monsieur, je suis le patron. Boum, je sanctionne.
On a quand même l'impression que les magistrats ne sont jamais responsables de rien. C'est la seule profession, moi, que je connais.
Les politiques aussi.
Non, je suis pas d'accord.
Les politiques, avec les élections.
Je rappelle qu'on a mis un ancien président en prison. Je suis désolé, ça a quand même progressé.
Ministre de l'Intérieur,
il s'appelle Nicolas Sarkozy. Donc, les politiques, ça a changé. Mais la seule profession qui a pourtant un pouvoir exorbitant. Le juge d'instruction, c'est peut-être l'un des hommes les plus puissants de France. Parce qu'il a le pouvoir de vie ou de mort sur toi, hein. Te met en prison, il te met pas en prison, il peut. Et donc, à un moment donné, il faut exiger des magistrats de pouvoir rendre des comptes. Moi, je vais suivre les sanctions qui vont être décidées contre la procureure de Hoche. Parce que, à mon avis, on va être au niveau du blâme, hein. Je suis pas d'accord. Je veux dire, si dans ta vie, toi, tu fais une faute, tu peux être très lourdement sanctionné.
Qui cause la mort.
Qui cause la mort, hein.
Une
petite fille.
Je suis d'accord avec toi, Olivier. Mais il y a aussi une responsabilité du système, parce que le système est fait comme ça. Après, moi, je suis d'accord avec toi. Il y avait une affaire, moi, qui m'avait choqué. C'est qu'un juge était sorti quasiment lavé, alors que il avait été accusé d'avoir voulu louer ou prêter sa fille. Oui. Mineurs à des gens. Et moi, je trouve que.
18 mois de sursis.
Là, ils se sont protégés entre eux.
Et
là, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet.
Oui, oui.
Il y a un vrai sujet. Mais
ils sont invirables.
Là, ne serait-ce pas là en ce moment,
Olivier Bailly pour le citer.
On est sur les violences sexuelles et sexistes. On est sur la pédocriminalité. Et en fait, on a un vrai sujet avec ça, c'est que normalement, ça devait être soi-disant la priorité du gouvernement de Macron dans son deuxième quinquennat. Moi, je suis désolé.
Mais là, n'empêche pas l'autre. Tu peux très bien pointer du doigt des responsabilités individuelles et dire, effectivement, peut-être qu'on ne protège pas suffisamment les enfants de ce pays. On voit l'affaire du périscolaire à Paris. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Là, ce qui est un peu énervant, c'est l'esprit de corps. C'est, voilà, on nous attaque. Attention, c'est pas
Loïc,
systémique.
Loïc, bonjour.
C'est un réflexe pavlovien, tu sais.
Bonjour, Loïc.
Et chez eux, il est
bon. Bonjour, mes chers grandes gueules.
Qu'est-ce que vous en dites, Loïc?
Je vous en prie. Ce lieu de liberté, égalité et fraternité avec l'expression de parler.
Qu'est-ce que vous en dites?
On est vraiment dans une forme de symbolique de tous les mots MAUX français. Concrètement, en fait, la justice est la seule chose qui permet de faire vivre chaque personne de manière égale devant une institution nationale, un pays. Et cette mission régalienne essentielle, c'est auto-cité, comme un policier peine dans la police. Ils se sont auto-protégés, rappelons encore une fois qu'ils se sont en plus politisés avec le mur des cons. Donc on est vraiment dans un système qui est extrêmement malade. Ils s'auto-protègent. Et c'est très juste ce qu'a dit, je crois que c'est Laura, que vous avez d'ailleurs croisé à l'époque sur un plateau, chez Machine Sweetex, mais elle a complètement raison. C'est-à-dire que, à un moment donné, si vous voulez, c'est bien gentil, toutes ces corporations, ces lois, mais quand ça finit par desservir la protection de nos vies, y compris des plus fragiles, comme l'enfance, plus aucun mot, plus aucune loi, mais même plus aucune histoire d'une nation, peut se planquer derrière, se glorifier derrière une nation pour dire bah oui mais c'est parce que non c'est fini, il y a des enfants qui crèvent parce qu'il y a des monstres qui sont en liberté, la justice en fait s'auto-protège, nous en fait on est en train d'hurler et qu'est-ce qui se passe, regardez bien, les politiciens pointent du doigt avec ces rapports-là la justice quelque part essaie de se défendre contre politique, donc on est pile poil dans le symbole du brouillard, c'est-à-dire une culture de l'irresponsabilité par nos politiques. Je rappelle qu'ils ont magouillé, qu'ils ont été pris dans un nombre hallucinant d'affaires judiciaires et d'affaires de corruption, mais ça passe. Donc, bah, écoutez, la justice, elle n'est qu'à l'image de nos politiques, la culture de l'irresponsabilité, et je termine par là, ça descend crescendo sur toute la nation. C'est-à-dire que sur les hauts fonctionnaires, vous avez ce même schéma-là. Je vous rappelle aussi que même dans les mairies, ça finit par tomber. Comment se fait-il que l'ancien DRH de la mairie de Paris n'est pas devant les tribunaux pour s'expliquer comment ça se fait qu'il y a eu des enfants qui ont été violés, touchés et agressés? Non, ça passe, c'est tranquille.
D'ailleurs, je vous conseille à ce propos.
D'immunité de la gauche,
il a même été élu maire, dis donc.
Oui, vous avez Loïc, je voyais Emmanuel.
Non, mais Loïc a raison. Trop souvent, les palais de justice sont des palais d'injustice.
Loïc, c'est vous qui aurez conclu la discussion. Je vous remercie d'avoir été avec nous dans les GG. À bientôt. Est-ce que les magistrats se plaignent un peu trop facilement, font ouin ouin? C'est la question qu'on vous a posée sur les réseaux sociaux. Ou est-ce qu'ils ont raison de manifester en disant « nous sommes des boucs émissaires » Ben non, ils ont tort de se plaindre, c'est ce que vous dites, à 89%. Dans un instant, on va regarder le petit sondage politique du week-end, là. C'est Jordan Bardella, toujours intouchable. Comment est-ce que ça s'explique? C'est au 32-16 que vous en discutez avec les grandes gueules, il est 11h20.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les chichés, avec les grandes gueules, avec Laura Barton-Martinez, avec Bruno Poncé et avec Emmanuel Devilliers. On va regarder un peu les sondages de cette fin de semaine. C'est la perspective de l'élection présidentielle, bien sûr, il y a les baromètres, toutes les semaines, on aura encore ce week-end, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, si vous vous en souvenez, la semaine dernière, on s'interrogeait de savoir si Jordan Bardella avait commis une petite faute politique, une petite erreur politique. Vous savez, en étant au Grand Prix de Monaco, au moment où on était en plein dans l'affaire Liana, et lui, on le voyait avec sa compagne, la comtesse Bourbondais de Sicile, et on voulait savoir si ça allait avoir un effet sur sa popularité. Que nenni.
Non, jamais un candidat n'a été aussi haut au premier tour depuis bien longtemps dans une intention de vote. Alors, bien sûr, c'est un sondage, un instant T, etc. Mais 36%, c'est du jamais vu. Donc, Jordan Bardella, toutes les critiques, finalement, n'ont aucun effet. On entend beaucoup des critiques sur son inexpérience, son jeune âge. Effectivement, les critiques, il serait désormais hors sol parce que il vit une histoire d'amour avec une princesse. Il s'affiche au Grand Prix de Monaco alors qu'il y a une marche blanche pour Liana. Tout ça glisse sur lui. Jordan Bardella n'a jamais été aussi haut. Il est en train de pulvériser Marine Le Pen, d'ailleurs, dans ces mêmes sondages, hein, quand on les compare. Alors, on verra si c'est Le Pen ou Bardella, ça c'est 7 juillet. Il est très loin devant les autres, c'est-à-dire Édouard Philippe qui est le mieux placé derrière lui est à 19 au mieux, contre 36. Donc, qu'est-ce qui pourrait arrêter Bardella? C'est la question qu'on a envie de poser.
Bruno?
Ben, moi, ce que je vois, ce qui va arrêter Bardella, c'est peut-être comme ça a arrêté d'autres avant lui, des favoris comme Fillon et d'autres. C'est long.
Fillon,
hein.
J'ai jamais été à 36 dans un
sondage. Non, mais c'est long. Mais là, c'était lui le favori. C'est long quand même maintenant. Ça va être très, très long.
On est d'accord.
Et puis, il y a un autre sujet, c'est que, alors là, aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi le fait que personne ne sait qui sera en face de lui. Il n'y a que Mélenchon qui s'est déclaré. Philippe. Oui, mais est-ce que Philippe sera là? Parce qu'en ce moment, il y a un gentleman agreement entre lui et Attal, le premier fin décembre, celui qui y va. Donc, oui, mais tu vois, en fait, aujourd'hui.
C'est l'avantage Philippe,
j'ai envie. Et puis, mais moi, j'ai l'impression que ces sondages, c'est un peu comme aujourd'hui, le montage en épingle de Glucksmann, qui aujourd'hui ne parle qu'à des bobos parisiens.
Oui, mais du coup, dans le sondage, Glucksmann, par exemple, ne décolle pas. Il reste autour de 9.
Glucksmann, il va pas y aller. Son directeur de campagne vient de se barrer, parce qu'à mon avis, il a été rappelé par Hollande pour venir travailler avec lui. À un moment donné, il faut arrêter de s'enflammer. Je pense qu'aujourd'hui, on est au mois de juin, il y a d'autres priorités déjà pour la plupart des Français, les mecs qui répondent ça.
Mais n'explique pas pourquoi il fait 36. Là, t'es en train d'expliquer qu'il fera pas 36 ouais. à la fin, d'accord, mais tu n'expliques pas pourquoi, aujourd'hui, il y a 36% des électeurs qui se disent si on votait dimanche, je voterais Bardella. C'est ça qui est intéressant.
Peut-être que là, les 36%, c'est les vieilles dames qui sont contentes que Bardella soit qu'une
première.
L'explication, elle est assez simple. Elle vaut également pour Madame Le Pen avec un petit score inférieur. C'est deux choses. C'est que les Français souffrent de l'immigration et de l'insécurité et qui veulent renverser la table.
Il y a eu l'affaire Liana qui
veulent renverser la table.
Qui joue un rôle.
La décision du 7 juillet est évidemment cruciale. Et ensuite, il y a un effet ballon de rugby dont on ne sait pas du tout comment ça va tourner. C'est l'histoire effectivement avec sa compagne que je rehausse quand même parce que tu l'as qualifiée de comtesse. C'est une princesse.
C'est la princesse bonbon des deux Siciles.
Mais malheureusement, une princesse d'opérette très jet-set, qui n'est même pas française, qui est italienne, qui a certainement des qualités personnelles, mais qui est
encore de l'immigration.
Excessivement jeune,
lui-même d'origine
pour incarner la première dame à l'Élysée à 22-23 ans, ça pose une difficulté. Comment les Français vont apprécier ou considérant cette origine bourbon et le prestige dont elle jouit, ils sont fiers qu'elle puisse accompagner un candidat, ou au contraire, constatant une distance avec leurs préoccupations et une notion de fortune et un éloignement par rapport au problème de la France profonde, est-ce que ça va lui nuire? Toujours est-il que Bardella a beaucoup d'allure, et d'un point de vue de l'incarnation, il a de la gueule, tout ça, il est impeccable dans son comportement. Donc effectivement, c'est un candidat sérieux. Ce qu'on sait déjà, et Olivier a raison d'insister, c'est qu'il sera présent au second tour ou Madame Le Pen.
Laura.
Non, moi je pense que les 36% sont du fait d'une excellente campagne médiatique. C'est tout. Parce qu'une fois qu'on fait toc-toc-toc, qu'on ouvre et qu'on creuse, je suis désolée, mais il n'y a rien, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Le RN nous explique qu'ils vont résoudre tous les problèmes du pays par l'immigration, en stoppant l'immigration, et que ça va tout résoudre. Et LFI nous explique qu'ils vont tout régler par rapport, on va aller taxer les riches. Voilà ce qu'on nous propose en France. C'est quand même pépite. Hein. On n'a pas d'autre idée. C'est-à-dire que personne n'a réfléchi à un autre système, à un autre business model. Non, non, on reprend les mêmes, on check, on recommence. Mais j'espère, honnêtement, aux gens qui nous écoutent ce matin, et j'ai déjà plusieurs fois défendu les RN, notamment sur le fait qu'aucune banque ne voulait les financer. Je trouve ça antidémocratique. Donc, qu'il se présente, qu'il fasse son programme s'il est élu, ce sera la loi de la démocratie. C'est une chose. Oui, s'il vous plaît, messieurs, dames, réveillez-vous. Mais économiquement, c'est tellement vide, c'est tellement creux. Il n'y a aucune solution concrète.
Mais les Français ont envie de renverser la table.
Mais ça ne va pas renverser la table du tout. Puisque
après, on verra.
Mais les Français veulent quoi? Les Français veulent plus de justice, une réelle et réelle justice qui fonctionne correctement. Ils veulent plus de sécurité. Ils veulent que les soignants puissent soigner. Ils veulent tout ça.
Mais non, oui, non.
Et la seule manière qu'ils ont de le financer, c'est stopper l'immigration. Je suis désolé.
Comme dans une concession automobile, ils disent bêtement, c'est la seule voiture qu'on n'a pas essayée.
Alors ça, c'est un argument, à mon avis, qui marche bien. Le fait qu'effectivement, on n'a jamais été au pouvoir. Puis deuxièmement, je crois que c'est le dégagisme qui continue. C'est-à-dire que je pense qu'une bonne partie des Français ne veulent plus voir cette classe politique actuelle, celle qui a incarné le pouvoir pendant 10 ans maintenant. Et donc, le dégagisme continue. Et il profite à Bardella, hein, les 36% des gens qui ont envie de renverser la table.
Mais ça, je l'entends.
Dégagisme de quoi? Si tu rajoutes
les 13% de Mélenchon, t'as quasiment 50% des Français qui sont...
Alors, je vais faire...
Bruno,
on est là dans une émission éminemment interactive. Pourquoi pas Bruno Retailleau, ton homonyme par le prénom, au second tour?
Déjà, faudrait
pour l'instant, il est pas bien passé.
Il faudrait qu'il fasse plus d'1%, je pense déjà. Enfin, je pense qu'il est parti pour faire une Pécresse dans pas longtemps. Je pense même qu'il ira pas. Parce qu'en fait, ils vont essayer de trouver un candidat qui mélange un peu plus la droite. Donc, pas Philippe, moi je pense qu'il ne pas non plus. Moi je pense qu'on va nous sortir une tête de proue. Pas Lisnard, parce que c'est creux. Mais je pense qu'il y en aura d'autres.
Le cornu.
Sortir autre chose. Non, le cornu.
Castex.
Oui, voilà, c'est ce qu'ils disent en ce moment. Et moi je voudrais pas qu'il me pique mon président. Pour une fois que j'ai un président qui aime le train, ils en déconnent, ils ne vont pas nous le piquer.
Et puis, il me semble qu'Emmanuel Macron, il n'était pas dans les sondages 6 mois avant l'élection.
Ici, il venait d'y être parce qu'en fait, il s'est déclaré un an avant.
Mais de toute façon, pour le Rassemblement National, pour Jordan Bardella, c'est pas le problème, c'est pas le premier tour.
Non, ça va être la campagne.
C'est toujours pareil, c'est le deuxième. C'est même si tu as raison, 36%, c'est inédit comme ça sur un premier tour. Ah, c'est-à-dire que derrière, c'est faire 50 plus 1.
Ouais, mais c'est, non, mais c'est un marathon. Il ne lui reste plus que 14% à trouver, ce qui le met en position de force par rapport à Marine Le Pen. Alors après, c'est que les sondages. Mais si jamais il faisait 36%, il lui reste plus qu'un.
C'est un marathon.
Dans l'hypothèse d'un second tour, RN et les filles, ça serait absolument cornélien et un casse-tête de fou en termes de pronostics, parce que les deux candidats auraient des effets repoussoirs pour un certain nombre d'électorats. Et
non, mais le problème, c'est pas l'élection présidentielle. Si t'as un second tour, RN et les filles, trouve-moi une Assemblée nationale derrière. Hein.
Absolument. C'est un autre problème dont on ne parle pas
là,
assez.
On pourra rigoler 5 minutes.
C'est que l'élection du président, c'est un côté gadget.
On verra si les socialos...
Le problème, c'est que derrière, s'il n'y a pas de majorité parlementaire, on peut faire toutes les promesses du monde, il ne se passera rien.
Non, attention,
on verra si les socialos nous feront le barrage.
On a Mika qui est au 32-16. Bonjour Mika.
Bienvenue. Oui, bonjour.
Mika de l'Oise. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Est-ce que vous trouvez ça anormal ou pas qu'il soit aussi haut que ça, Jordan Bardella, à 36%? Dites-moi.
Alors en fait, quelle a été la question qui a été posée? Et qui a posé la question? Parce que moi, j'ai demandé, et dans mon village, 100% des gens votent LFI. C'est bizarre. Parce que j'ai posé la question. Est-ce que c'est mieux d'avoir des hôpitaux sans étrangers et donc pas de médecins, parce qu'on a beaucoup de médecins, d'infirmiers, de soignants, personnel soignant dans les hôpitaux qui sont étrangers, est-ce que c'est mieux d'avoir zéro étranger et à ce moment-là on ferme beaucoup d'hôpitaux, ou est-ce que c'est mieux d'avoir quelques étrangers?
Mais Mika,
100% des gens ont dit oui, il faut des étrangers. Donc en fait, c'est ça la question. Il y a toujours eu un gros socle RN. Ce qui est paradoxal, hein, parce que le RN tape sur les plus pauvres, mais les plus pauvres votent pour eux. Donc c'est un petit peu Stockholm. Mais bon, le truc, c'est que le mensonge, quand vous entendez un mensonge, il faut 10 personnes pour établir la vérité. Et l'information est beaucoup contrôlée. Enfin, moi, j'écoute RMC, mais j'écoute d'autres informations. J'écoute CNews. Ça m'arrive. Pour rattraper tous les mensonges de CNews, ou même de Hanoula, hein, pareil, parce que vous êtes dans le même lot. Il faut beaucoup de journalistes comme les grandes gueules pour rétablir la vérité.
Mais vous considérez-vous que ce sont des mensonges? Après, c'est peut-être un biais, mais c'est pas forcément des mensonges. C'est une opinion, c'est pas forcément un mensonge.
Pour moi, un mensonge, c'est de dire, voilà, je vais vous défendre, et quand je vais à voter quelque chose pour vous défendre, je vote au contraire. Voilà, c'est ça. De dire, pour moi, un mensonge, c'est de vous dire, il faut protéger les enfants. Par contre, quand il y a une loi européenne, je vote contre.
Voilà. Mais Mika, pour mettre un bémol sur ce que vous avez dit au début de manière très forte, vous avez dit il y aura plus d'étrangers dans les hôpitaux, il y aura plus avec si le RN était élu. Moi je défends pas le RN, mais c'est quand même pas le projet qui est présenté. Ils n'ont pas l'intention de renvoyer tous ceux qui sont actuellement présents et actifs.
Parce que vous pensez sincèrement que quand un médecin vient en France, voilà, qui vient de, on va prendre le Ghana parce que j'aime bien l'équipe de foot de Ghana, voilà, j'aime beaucoup cette équipe. Donc un médecin vient du Ghana, fait venir sa famille, et le RN arrive et dit sa famille, c'est un petit peu embêtant parce que c'est, vous faites rien, vous profitez de votre mari.
Le nombre d'immigrés qui viennent pour le travail, c'est 10%.
Oui,
il est là le problème, c'est que pour la première fois, on n'a pas affaire à une immigration de travail.
Faut des fois que ces gens qui nous soignent,
c'est pas eux qui sont visés.
J'ai vu le médecin en urgence. C'était un médecin d'origine étrangère.
Voilà, c'est pas lui qui est visé, monsieur.
Il ne viendra plus.
C'est lui qui sera visé.
Il ne viendra pas dans un pays tenu par des racistes. Il ne viendra pas. C'est comme ça l'histoire. L'idée est là. Il faudra arrêter de rêver.
Ben Mika, justement, vous allez du coup nous emmener vers notre invité.
C'est pas des racistes, je
qui sera
pas
qui sera racistes. Avec nous là dans quelques minutes, Marion Maréchal. Mais on va regarder justement la question qu'on a posée. Merci Mika d'avoir été dans les GG. Jordan Bardella à 36% dans les sondages. Est-ce que ça veut dire qu'il est intouchable? Est-ce que ça veut dire que les dés sont jetés? C'est un 60-40. Oui, les dés sont jetés, mais 60-40. Voilà. Ben justement, on va continuer d'évoquer cette élection présidentielle. On va parler aussi d'immigration, puisque dans un instant, c'est Marion Maréchal, l'eurodéputée Identité et Liberté, qui sera notre invitée. Et puis à 11h20, on réécoutera Sandrine Rousseau, qui était invitée de BFM TV hier, et qui dit maintenant la clim doit être prioritaire dans les hôpitaux.
Celle-là, les pépites.
Tout arrive. Allez, à tout de suite avec les GG pour la troisième heure.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.